L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Oui, bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission de l'Afrique dans tous ses états et dans ce studio, Marie-Claude Siakezak, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Qui est venue avec notre invité Amine. Bonjour Amine.
Bonjour.
Alors Marie-Claude, le mois dernier, le 17 février, nous étions au Gazette Café.
Oui, tout à fait.
Pour une très belle après-midi consacrée à la presse en Afrique de l'Ouest, singularité et limite. Nous avions par visioconférence Arnaud Ouédraogo.
Oui, on a eu la chance, ça a à peu près marché, quoi.
Qui est coordonnateur de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation. Et nous avons bien sûr Thibaut Buis, qui était ici notre invité, journaliste indépendant, qui était notre invité juste avant ce 17 février. Il y avait aussi Irénée Lecompteur, qui est aussi un de vos amis, Marie-Claude.
Oui, une figure montpelliéraine qu'on ne présente pas.
Voilà, Irénée Lecompteur qui se tient à votre disposition. Vous tous qui souhaitez animer des soirées, des après-midi, c'est un compteur hors pair. Et puis, dans cet après-midi, nous avons croisé Amine. Et puis, Marie-Claude, on la connaît. Elle croise quelqu'un qui lui plaît. Hop, allez, hop. Et à la direction, la radio FM+. Donc, Amine, vous étiez cet après-midi sur la liberté de la presse. Et pourquoi cela étiez-vous à ce moment-là, au Gazette Café, ce jeudi 17 février?
Oui, j'étais jeudi 17 février au Gazette Café par l'invitation de Marie-Claude. On s'est rencontré avec la rencontre de Thibaut qui nous a mis en contact et avec le club de la presse de Montpellier.
Voilà, et si personnellement j'avais invité Amine, c'est parce que on me reproche de temps en temps gentiment, mais quand même d'avoir beaucoup d'acquaintances avec le Burkina Faso, ce qui serait difficile autrement.
Mais pas que.
Mais comme mon amour de l'Afrique va bien au-delà, et qu'en plus, justement, je suis très très heureuse parce que Amine vient de Guinée. Alors, Guinée-Conakry, puisqu'il y en a trois. Il y a une Guinée lusophone, qui est la Guinée Bissau. Il y a la Guinée...
Nouvelle Guinée équatoriale,
qui est la hispanophone. Et puis, nous avons la Guinée-Conakry, qui est francophone. Et c'est ce que j'avais dit, d'ailleurs, lors du Gazette, et puis que je redis ici, c'est que je déplore souvent qu'on parle très, très peu de la Guinée. C'est un pays qui malheureusement, est un des... D'ailleurs, peut-être qu'après, Amine nous en dira quelques mots aussi, par la suite, de ce qui se passe aussi, mais c'est un pays qui est souvent oublié, alors qu'il y a aussi une très belle histoire. Il y a un écrivain hors pair, si un jour vous avez envie de lire de la belle littérature française et francophone, qui était Arnaud Monenem, bon, entre autres, voilà, et qui a écrit Le Roi de Kael, il a eu un prix pour ça, enfin il a écrit pas mal de livres, et j'étais très heureuse justement qu'on puisse croiser Amine, et puis plus c'est affinité, donc ce qui s'est passé, parce que nous allons aussi parler maintenant aussi d'un ailleurs, mais d'un pays africain, d'Afrique de l'Ouest, qui, ma foi, compte beaucoup, a une belle histoire aussi, et notamment avec les Peuls, n'est-ce pas? Puisqu'il y a beaucoup de Peuls là-bas.
Oui.
Et vraiment, voilà, et donc je pense qu'Amine va un peu nous dresser un peu un portrait, peut-être, de lui là-bas, et puis après on ira un peu plus loin jusqu'ici, on viendra jusqu'ici après, jusqu'à Montpellier.
Alors Amine, la Guinée... Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Guinée?
Waouh. Ben écoutez, la Guinée représente tout pour moi. La Guinée représente tout pour moi. C'est là-bas, je suis né, grandi.
Êtes né à quel endroit?
Et je suis né précisément à Bofa. Bofa.
Donc, Bofa. Oui. On la trouve sur la carte, Bofa. C'est pas très loin de Conakry ou c'est vraiment loin?
C'est un peu loin de Conakry, 300-350
km. Ah oui,
Donc c'est un peu loin de Conakry.
Dans un petit village, dans un village.
Oui, dans un village, dans un village.
Alors c'était quoi votre vie à Bofa?
Nous on vit de la culture, pêche, et l'élevage. Oui. Là-bas, on vit échange, on fait commerce aussi.
Commerce de singes ?
Commerce de...
Des échanges,
quoi. Donc ouais. Des récoltes, mmh, les plantations. Ouais. Après, mmh, vous, après les récoltes, vous descendez à Conakry, comme c'est là-bas la capitale. Donc c'est là-bas les marchandises coulent vite. Et c'est le riz, l'arachide, un peu de tout ça.
Voilà, et on vit bien quand même, on vit relativement bien.
Oui.
Vos parents étaient agriculteurs, éleveurs ?
Oui, agriculteurs, éleveurs, commerçants en même temps. Oui, commerçants en même temps. Donc l'élevage, parce qu'il y a des gens qui quittent la capitale pour venir acheter des moutons, chèvres chez nous, parce que Boufa, c'est moins cher que Conakry. Donc beaucoup de gens qui quittent là-bas, Conakry, pour venir là-bas acheter des marchandises surtout.
Voilà, et donc j'aimerais bien que Amine nous explique comment il a échappé au sort qu'il attendait de devenir paysan. Comment à un moment peut-être sa vie a changé d'orientation.
Oui, c'est Dieu merci, c'est grâce à ma grand-mère, que son âme repose en paix, ma femme. C'est moi, je suis l'aîné. C'est quand elle...
Vous aviez des frères et sœurs, alors ?
Oui, j'ai des frères et sœurs, mais je suis l'aîné. Mais quand elle est l'aîné, c'est toi qui représentes après papa. Donc, la famille, tu as beaucoup de responsabilités. Donc, vie à pas d'école. Bon, il y a l'école là-bas, mais c'est franco-arabe. Donc, il faut toujours commencer par ça. Donc... Ma grand-mère dit maintenant, donc c'est le premier, il ne peut pas rester ici, faire l'élevage, commerce et agriculture. Il faut qu'il lui descende en capitale pour aller étudier.
Donc c'est votre grand-mère qui a eu cette vision pour vous,
oui,
de se dire, voilà, l'avenir pour Amine, ce ne sera pas celui de l'agriculture.
Oui, parce que ma maman, elle est capitaliste, elle est née à Conakry. Donc, c'est là-bas, elle a grandi tout par vacances maintenant, et il partait en vacances au village. C'est dans ça qu'il a rencontré mon père. Donc, la belle famille vivait là-bas à Conakry.
Voilà, donc une autre destin que celui qui était prévu au départ, qui était programmé au départ.
Alors, qui a pris dans votre famille la propriété agricole ou l'élevage ? C'est votre frère ou votre sœur qui vous suit ?
Oui, mon frère.
Comment ça s'est passé après, alors ? Du coup, vous êtes parti.
Après moi, c'était pas facile, parce que papa, il a résisté toujours, non, c'était chaud. Et finalement, il a décidé d'accepter, me libérer. Donc, quand je suis parti, bon, il y a beaucoup de monde quand même. N'oublie pas, il y a ses frères aussi. Mais vu que c'est ton fils qui doit hériter de tout ça, donc il voulait pas que je m'éloigne. Je descends à Conakry pour étudier là-bas. Donc, ses frères étaient à côté de lui, et mes frères aussi. Malgré que j'étais petit, mais j'étais à côté aussi.
Et il faut dire quand même que Amine a beaucoup résisté, puisque quelque part, déjà, dès l'enfance, c'est ce qu'il raconte quand même, sans trahir des secrets, c'est que tout petit, il n'était pas justement dans le droit fil de ses traditions. D'ailleurs, ici, nous avons connu ça aussi, peut-être même encore, on le connaît, peut-être quelquefois, quand on est l'aîné quelque part, et particulièrement un garçon, on a encore un destin qui veut être tout tracé,
et que
tout petit déjà, lui, il avait besoin d'avoir l'explication du pourquoi, du comment, et en ça, il résistait déjà à son père.
Oui, ouais, je résistais beaucoup parce que chez nous, n'oublie pas, tradition, on dit bon, on ne fait pas ça, il y a marigot ici, au fléau ici, les étrangers ne viennent pas ici pour se laver. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit, pas d'explication. Donc moi, depuis, je dis tout, je pense, papa me dit bon, il ne faut pas faire ça, là c'est interdit. Je demande ben, pourquoi nous on ne peut pas faire ça, pourquoi, explique-moi. Bon, il ne dit pas, il ne donne pas la réponse que je voulais. Il dit bon, c'est comme ça, ils nous ont dit, que nos ancêtres ont dit de ne pas faire ça, de ne pas. Ben là, je dis bon, moi je ne suis pas d'accord. Bon, je ne dis pas devant lui, je ne suis pas d'accord, mais moi je faisais toujours. Avec les amis, on dit ne pas faire ça. J'ai dit, mais moi, je fais. C'est comme ça. C'est passé. C'est comme ça. Des vacances, des fois, quand je pars là-bas, on me dit, je suis devenu maintenant étranger. Il ne faut pas aller là-bas. J'ai dit, mais moi, je pars. il ne faut pas courir ici. Donc, je voulais toujours qu'il me donne l'explication pourquoi de ne pas faire ça. Parce qu'ils nous expliquent toujours, bon, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais ils ne nous disent jamais pourquoi il ne faut pas faire ça.
Il fallait prendre content les paroles du Père. Il fallait les prendre telles quelles, sans...
Sans demander, sans savoir pourquoi. Parce que toi aussi, tu as besoin de dire aux autres de ne pas faire. Mais si quelqu'un comme moi voulait la réponse... voulait savoir pourquoi ne pas faire, il faut que tu donnes la vraie raison. Mm-hmm. C'est pas parce que oui, mon papa m'a dit, ou bien ma maman, ou telle m'a dit, donc moi aussi je me limite ça, non.
Est-ce que votre mère avait aussi ce comportement à votre égard, ou est-ce qu'elle était plus moins intransigeante par rapport à ça?
Par rapport à ça, moi, ma maman n'a pas de problème par rapport à...
Oui, elle est, ouais. Elle est née là-bas, elle est née à Conakry.
Voilà, justement, c'est ça qui m'a aidé aussi. Elle connaît, elle me laisse tout ce que je veux faire. Si c'est pas bon, elle me dit, bon, ça, c'est pas bon, il y a ça. Mais,
elle explique.
Oui, elle m'explique. Ouais. Elle m'explique. Mais elle connaît, elle a grandi là-bas, née là-bas. Donc, il y avait une différence de culture presque. Oui.
Alors, quand vous quittez Beaufas, vous avez quel âge?
11 ans, 10 ans, je pense. J'ai
oublié. Ah, c'était petit, ouais, tout petit.
11 ans, je pense.
10 Alors ans. Là, donc, vous allez dans un collège à Conakry?
Non, j'ai recommencé à primaire encore, parce que là, j'ai commencé à l'école coranique. Franco-arabe, on dit chez nous.
Oui.
Donc, une fois à Conakry, maintenant, je suis... tout ce que je savais, c'était bonjour en français. Donc, rien.
C'est un bon début. Hein.
Donc, c'était pas facile. Donc, j'ai recommencé encore à l'école primaire, CM. Donc, c'est comme ça que je suis parti maintenant. Mm-hmm.
Oui. Alors, donc, de l'école primaire jusqu'à. Quel âge vous avez fait vos études à Conakry à ce moment-là?
Et jusqu'à terminale, j'ai fait école professionnelle, comptabilité, gestion, formation. J'ai resté à Conakry maintenant jusqu'à ce que j'ai commencé à bosser.
Ouais. Et vous alliez de temps en temps à Bofa ou?
Oui, de temps en temps. Mais ce n'était pas tout le temps, vu que là-bas, la route n'est pas... Il faut des heures... Et des journées, parce qu'il faut faire 24 heures au moins, ou 48 heures, parce que la route, c'est pas praticable, donc des fois, on partait pas, on restait en communication, vous appelez. Des fois, comme maman vient souvent en ville pour écouler les marchandises de papa, donc on se voyait souvent. Oui.
D'accord, donc, là, on arrive à la fin des études. Et alors, il y a un comptable qui arrive au bout du compte ou bien quoi?
Oui, comptabilité, je ne vais pas dire que j'ai aimé.
Je ne sais pas pourquoi, je me serais un peu douter, je ne sais pas.
Moi aussi, mais peut-être que c'était le mot, c'était passe-partout à ce moment-là, ça pouvait donner confiance.
Après, la comptabilité, ça peut nourrir son homme.
Voilà, ça sert dans le commerce, par exemple.
C'est ça.
Oui, parce que quand j'ai échoué bac... Quand j'ai essayé, bon, je parle avec papa, je dis, bon, moi, je vais arrêter parce que papa, maintenant, le commerce n'allait pas pour lui. Il faut que je me batte pour envoyer l'argent à la famille. Donc, c'était pas facile. J'ai dit, bon, je ne peux pas suivre les deux à la fois. Il dit, bon, il faut aller faire école professionnelle, il faut faire ça. En tout cas, essaye, soit tu fais comptabilité, c'est ça, ça m'arrange bien, même tu fais comptabilité.
Il voyait ses intérêts tout à coup.
Voilà, il voulait ça. Bon, j'ai dit, ben là, je ne peux pas faire, mais je voulais faire école de journalisme, mais ça aussi, ça coûte.
C'est cher.
On n'a pas de moyens. Donc, il y avait des journalistes qui faisaient des formations. Donc, moi, je profitais là-bas. Parce que j'avais commencé déjà depuis le collège, prendre caméra, filmer les cérémonies. C'est ça, j'ai commencé les cérémonies de mariage, baptême des gens. Et là, maintenant, il y a un grand maître qui m'a dit, « Bon, petit, je te vois, tu es courageux tout le temps, tu viens passer. » J'avais pas de caméra. On partait là-bas chez c'est un studio pour lui les caméras à l'époque, 25 000 francs, 15 000 francs. Donc, tu vas aller chercher les marchés, tu viens, bon, c'est grand, aide-moi, j'ai 15 000, moi aussi je prends 10 000, donc donne-moi la caméra, je vais aller faire des mariages ou baptême comme ça.
Cérémonie.
Cérémonie, voilà, cérémonie. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, il me dit, bon, avant de faire ça comme ça, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Pourquoi tu ne viens pas sur formation avec nous ici? On va te apprendre, on va te dire c'est comme ça, c'est comme ça. Au lieu de t'engager directement dedans et sans repère. Mmh. C'est comme ça que j'ai commencé technique, caméra. Et jusqu'à maintenant, j'ai commencé à faire des reportages. Mais bon, ma voix, comme vous savez toujours. Donc je préférais maintenant faire des reportages. Je cherche les amis qui plaquent la voix. Dans des commentaires ou autre chose.
Mais donc, quels sont les thèmes, par exemple, des reportages? Sur quel thème?
Des reportages, par exemple, journal, parce que j'ai commencé sur ça, journal. Et les partis politiques, ou que ce soit l'inauguration d'hôpital ou d'autres choses. En tout cas, tout, c'est parce qu'il y avait des journalistes avec nous. Et quand il y a des reportages concernant cérémonie de quoi, en tout cas, parce que chez nous, il y a beaucoup de manifestations et il y a beaucoup d'inaugurations, des conférences de presse. Donc, je partais souvent avec un journaliste parce que j'ai commencé d'abord comme ça avec un journaliste. Après ça, il vient, je monte parce que c'est monté, je filme, je monte. Il vient, je monte l'émission ou les reportages de 3 minutes. Après, ils font passer ça.
Ils sont diffusés sur des télévisions ou sur Internet ou comment se passe la diffusion après?
La diffusion, c'est télé. La diffusion, c'est télé.
Télé nationale.
Bien sûr. Télé nationale. La diffusion, c'est télé nationale. Parce qu'il n'y avait pas, privé. C'était national. Privé, ce n'était pas facile à l'époque. Donc, c'était télé nationale. Mm-hmm. Oui. Et l'Internet aussi.
Non, non. Pas encore.
Aujourd'hui, c'était là-bas, mais pour les riches.
Donc, c'était une formation sur le tas. Ce qui est intéressant, hein, c'est que vraiment, c'est une vocation, finalement, qui a, je pense qu'elle a... c'est pas comme ça qu'Amine nous la parle, hein, Guylaine, mais je pense qu'il y avait quelque chose en lui déjà qui le prédisposait à ça, sauf que entre le destin d'agriculteur ou de commerçant qu'on lui destinait, finalement la formation qui a fait l'unanimité, qui était la comptabilité gestion, il a bien fallu après dégager tout ce côté-là pour et je pense que c'est de haute lutte et franchement chapeau quoi. Chapeau, parce que... Alors, c'est vrai que les écoles de journalisme, moi, j'en sais quelque chose, puisque jeune, je voulais en faire, et effectivement, c'était trop cher, moi. Je ne voulais pas coûter ça à mes parents, d'ailleurs, c'était trop pas possible. Mais là-bas, évidemment, c'est encore autre chose, surtout chez un paysan, quoi, qui finalement, a des biens, mais plutôt dans ce qu'il produit au fur et à mesure, pas forcément dans un capital, quoi. Donc nous avons en fait un journaliste formé sur le tas et qui a le désir d'informer sur l'autre. Hein, il me semble que c'est ça ça qu'Amine se définit aussi, comme intéressé par les autres, c'est ça, Amine?
Oui, parce que quand même j'étais à l'école, je m'ai souvent demandé mes amis, quand je vois quelqu'un assis comme ça, il dit je viens vers lui, je dis qu'est-ce qui ne va pas. J'aimais beaucoup parler avec les autres. Savoir qu'est-ce qui ne va pas et demander si je peux trouver solution. Si je peux trouver solution, je peux aller au maître. J'ai dit, bon, lui, là, ça ne va pas, il est malade aujourd'hui. Parce que souvent, il y a beaucoup qui, chez nous, tu viens à l'école, tu n'as même pas de déjeuner, manger. Donc, tu viens chez toi d'abord, tu fais des kilomètres pour venir là-bas. Et tu ne peux pas te retourner chez toi. Après midi, tu restes là-bas jusqu'au soir, 18h, 19h, pour rentrer. Donc imagine rester là-bas en Chine, tu restes là-bas, tu n'as rien mangé, tu es venu d'abord, tu n'as rien mangé, tu restes là-bas encore. Donc retour encore, tu penses à ça. Donc je dis au maître, bon, ça, lui ça ne va pas, il y a ça. Donc souvent, il y avait une association à l'école comme ça, si tu n'as pas d'argent comme ça, tu viens après le maître ou bien le directeur. Lui dit, lui, bon, viens chez moi, tu vas manger à midi là-bas, après tu vas te retourner à l'école encore. Donc, les amis, donc j'aimais souvent aller demander les amis si qui ont des problèmes, parce que j'aimais beaucoup m'adresser aux autres pour savoir ce qui ne va pas ou pas.
Mais vous souhaitiez avoir des explications sur leur situation.
Oui. Et puis une inquiétude pour l'autre, quoi, pour les autres.
Ouais. Ouais. Alors ça, c'est, ça dure combien de temps, ces reportages télévisés?
Bon, un reportage télévisé, j'ai commencé à être professionnel, j'ai commencé en 2010. 2010, après l'élection présidentielle de chez nous. J'étais direct, je faisais campagne d'un leader politique de chez nous. Donc, j'étais reporter, faisais photos, montage en même temps, et diffusais à la télé.
Là, vous aviez pris parti.
Oui, déjà 2010, je suis décollé, et là maintenant.
Vous étiez jeune, hein?
Ouais.
Jeune journaliste, en tout cas.
J'étais jeune.
Je sais que, nous le savons toutes les deux, tous les trois, il y aura une deuxième émission. Est-ce que pour la deuxième émission, du coup, on va peut-être s'intéresser plus à votre parcours après la Guinée?
Je crois que, je ne sais pas, parce que je pense quand même qu'il aura des choses encore à nous dire sur la Guinée, aussi sur son vécu qui fait qu'il est là maintenant aussi. Je pense qu'on aura un petit peu les deux, quoi. On fera la traversée avec lui. peut-être qu'on traversera avec Amine. Hein, oui. Je crois savoir que c'est la Méditerranée qui l'a traversée, hein, non, pour venir ici.
Oui.
Voilà, parce qu'il y a eu quand même des choses aussi difficiles. Et puis peut-être que pour finir, peut-être on peut rapidement reparler un petit peu de la Guinée, non? Le nombre d'habitants, peut-être, Amine?
Oui, le nombre d'habitants, c'est 13 millions. 13 millions d'habitants.
Moi, j'ai lu récemment que 14 millions pratiquement, 13 et quelques.
Bon, 2021, 13 millions. Bon,
13 millions, 21, oui.
Là, bon, je ne sais pas exactement, mais c'était à 13, peut-être aller à 14 maintenant, parce que chez nous...
Le recensement.
C'est pas facile, le recensement. Et chaque jour, il y a des naissances encore. Tu peux avoir famille là-bas, 15, 20. Donc, c'est pas facile. Le recensement, c'est compliqué là-bas encore.
C'est très compliqué,
oui.
Et puis, c'est un pays qui est sensiblement un petit peu plus petit que le Burkina, qui est à côté, qui est voisin, mais bon, guerre quand même, avec une espèce de... Effectivement, les revenus essentiels, c'est l'agriculture et l'élevage. En fait, ça fait partie des revenus prioritaires.
Oui.
Mais n'oublions pas qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses, des richesses aussi.
Il y a beaucoup d'autres choses, richesses, mais
qui
là...
explique le destin tragique de ce pays en ce moment aussi.
Oui, mais richesse, c'est compliqué parce que, franchement, il y a beaucoup de recherche chez nous, mais nous, on ne bénéficie pas. Donc, beaucoup ne savent pas c'est quoi le pays est riche. On dit, bon, par exemple, si on prend l'eau, on dit la Guinée, c'est tout d'Afrique, mais il y a des gens, même en capitale, ils peuvent avoir 2 ou 3 mois sans avoir de l'eau. On vend des bidons à 200 ou à 2000 ou à 20 000 même d'eau. Donc, dans le capital, il n'y a même pas d'eau. Donc, tu ne peux pas te baser sur ça. Tu dis, la Guinée est riche, il faut aller travailler parce que les cultivateurs, c'est ce qu'ils font. Parce que quand tu pars chez moi, tu parles de richesse de la Guinée riche, ils ne connaissent même pas. Personne ne s'adresse sur ça. Ouais, il faut qu'on s'assoie, on va regarder l'état. Non, matin, tu te lèves, tu vas au champ, ou bien aux plantations, tu fais ce que tu vas faire, parce que c'est ça que tu vas nourrir ta famille.
Ta famille.
Oui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les richesses, finalement, ne sont pas pour les habitants du pays, mais elles sont en quelque sorte extorquées du pays, s'adressent à d'autres personnes.
Parce qu'il y a beaucoup de minéraux quand même là-bas. Il y a beaucoup de... Non, il n'y a pas même des diamants.
Il y a diamants, il y a l'eau, bauxite même. Parce
tout à fait beaucoup, oui.
Bauxite, on a réserve, je ne sais même pas combien d'années. mais nous... Parce que tu ne peux pas demander à un Guinéen qui va dire exactement bauxite de la Guinée par an. C'est ça qu'on gagne. C'est très difficile. On ne sait même pas par où. C'est comment tu vas voir chaque jour des entreprises étrangères qui viennent chaque fois, tu vois, mais tu ne connais pas réellement c'est quoi.
Et rien ne va à la
rien
population.
Rien ne va à la population. Tu signes avec contrat avec les entreprises. Et le contrat, c'est le ministre qui sait comment il fait. Bon.
Et la population n'a aucune idée de ce que son pays peut sceller comme richesse.
Aucune idée.
Alors Amine, on va vous retrouver la semaine prochaine. Avant de nous quitter, vous avez choisi une musique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter brièvement?
Oui,
cette émission.
Oui, j'ai choisi Takanazayan, Conakry, ça parle de la capitale.
Conakry,
oui. Oui, ça parle de la capitale. En fait, il n'y a pas de lumière, mais on vit mieux. Il n'y a pas de. Quand tu es là-bas, tu vis plus que ce qu'il y a à Miami ou à Paris. Il n'y a pas de goudron, mais on préfère notre capitale, on aime notre capitale, on aime notre pays. Et c'est ça.
C'est ça, c'est ça la richesse aussi
richesse, oui.
du peuple.
Oui. Bien, merci Amine.
Merci en tout cas.
À la semaine prochaine.
De la Guinée.
Merci à vous.
À la semaine prochaine alors. Hein.
Et on se revoit tous les trois.
Voilà.
Radfmplus.org pour nous retrouver. Au revoir.